au 97.3. On vous donne le juste.
Je suis avec la professeure Andréane Gagné, spécialiste de l'effet des écrans sur le développement de l'apprenti et l'apprentissage à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Et j'aimerais ça que, en partant, vous nous rappeliez toute cette saga en fait, qui a mené à l'interdiction aujourd'hui du cellulaire au complet dans les écoles, parce qu'on avait déjà eu un premier test, j'allais dire, où c'était interdit dans les classes. Maintenant, c'est terminé, fini, bonsoir, il n'y a plus un cellulaire qui rentre à l'école.
Déjà, je vais nuancer, il n'y a plus un cellulaire qui rentre à l'école, ils peuvent rentrer à l'école. Là, la plupart des écoles, ce qu'on choisit de faire, c'est de déposer le cellulaire dans le casier de l'élève. Là, il y a d'autres façons, mais je veux dire, l'enfant n'a pas non plus à laisser son cellulaire à la maison. Ce qui a changé, en fait, c'est que de la première minute du cours à la dernière minute du cours, les élèves ne sont pas autorisés à utiliser leur appareil personnel ou des écouteurs. Donc, c'est ça qui a un peu changé. Et puis, ayant deux adolescents, moi-même, là, je sais qu'il y a plusieurs rumeurs qui ont circulé, dont le fait qu'effectivement, là, ce serait plus possible d'amener des cellulaires, ni même là, de l'utiliser pour les transports en commun ou tout ça. Là. Mais le principe est que les cellulaires ne sont pas permis du début des cours à la fin des cours, ce qui fait que les enfants peuvent quand même les utiliser à la fin des activités parascolaires, par exemple, pour rejoindre leurs parents. Fait que juste un peu recadrer un peu la rumeur, le mythe et la réalité.
Et parfait, puis, c'est ça, on remet les pendules à l'heure là-dessus. Mais là, vous me dites du début à la fin des cours, est-ce que si je m'en vais dans la cour, justement, pour une période de pause, je peux utiliser mon cellulaire?
Ah non, c'est ça. C'est du début. Par exemple, si la journée d'instruction, là, la journée de cours débute à 8h30 puis se termine à 16h30, mais entre 8h30 et 16h30, il n'y a pas d'utilisation des cellulaires qui sont permis, que ce soit en classe ou dans les locaux, à la cafétéria, sur le terrain de l'école. Donc, c'est effectivement là, c'est ça la nouvelle réglementation là qui est mise en vigueur. D'où ça vient? En fait, c'est que l'an dernier, là, les travaux ont commencé il y a environ un an. Il y a une commission parlementaire transpartisane, là, une commission spéciale parlementaire qui a été mise sur pied parce que la santé publique et notamment la santé publique, puis plusieurs experts et les que ce soit en éducation ou en santé, avec la pandémie, là, l'usage des écrans a augmenté, puis il y avait un souci. À l'effet de ce que pouvait être les répercussions sur le développement puis l'apprentissage de l'enfant, l'augmentation là, de l'utilisation des écrans, que ce soit à la maison ou à l'école. Et il y a une commission qui a été mise sur pied. Cette commission-là a fait, pendant un an, a interviewé des experts, même s'ils sont allés, ils sont interviewés aussi des élèves, des enseignants, des directions. Ils ont visité des écoles où une réglementation était déjà en place, parce que c'est sûr que c'était pas à ce moment-là un règlement, mais certaines écoles, de leur propre initiative, avaient déjà décidé qu'ils interdisaient l'usage des écrans pendant les pauses sur les heures du midi sur le terrain de l'école. Puis la commission est allée voir un peu ce que ça donnait, puis la conclusion en a été que c'était une avenue prometteuse pour essayer de diminuer les répercussions négatives que peuvent avoir les écrans sur le développement d'apprentissage, mais aussi sur la socialisation de l'enfant. L'aspect socialisation aussi a été important aussi dans la prise de décision.
C'était quoi les craintes qu'on avait avec l'utilisation du cellulaire par les élèves à l'école?
Les écrans peuvent agir de deux façons, là, si vous voulez, sur la socialisation, le bien-être, puis l'apprentissage de l'enfant. En fait, ça peut se substituer à d'autres activités qui, elles, soutiendraient mieux la socialisation de l'élève. Par exemple, un élève qui, plutôt qu'aller faire une activité parascolaire sur l'heure du midi, prend son téléphone et fait des jeux en ligne, ben le fait de faire des jeux en ligne va faire en sorte que cette activité-là va se substituer à une activité réelle qui, elle, soutiendrait mieux la socialisation de l'élève. Donc là, ça, c'est un phénomène de substitution. Fait que c'est pour ça que le cellulaire a été... c'est ça l'origine de l'interdiction là, entre surtout les moments de pause sur le terrain de l'école, c'est pour pas que le cellulaire se substitue à des interactions réelles avec des amis. Donc il y a ça, c'est la substitution, c'est un phénomène par lequel l'écran peut intervenir sur le développement du jeune. Puis l'autre façon, c'est la technoférence. Donc ça, c'est quand on a des notifications, quand on a qui interrompt une activité intellectuelle ou une interaction qu'on a avec quelqu'un. Donc ça, en partie, là, vous l'avez mentionné il y a quelques minutes, là. Il y a un an et demi maintenant, là, on avait déjà interdit les appareils mobiles personnels dans les salles de classe pour justement diminuer ce phénomène-là de la technoférence où le jeune a une notification puis est déconcentré par cette notification-là, puis ça lui prend du temps de revenir sur
ce qu'il faisait là, ouais, sur sa tâche là, ouais.
Fait que ça, c'était la technoférence. Donc ça a été adressé beaucoup il y a un an et demi, mais il restait encore le phénomène de la substitution. Où là, ce qu'on voulait, c'est d'éviter que le jeune remplace des activités de socialisation importantes là, pour son développement par l'utilisation des écrans. Et à cela s'ajoute, là, moi, c'est pas mon domaine, mais le rapport de la commission d'enquête ajoute le fait que la SPVM a aussi émis un avis à l'effet que le cellulaire est aussi un vecteur de criminalité là dans les écoles. Fait qu'il y avait aussi cet avis-là qui, je crois, a pesé dans la balance. Là. Je suis pas criminologue.
Ouais, là, quand vous dites criminalité, est-ce que ça inclut tout ce qui quand on parle d'intimidation par exemple avec je sais pas quelqu'un qui va filmer un autre élève à son insu pour envoyer des choses sur les réseaux, le faire paraître mal. Est-ce que ça rentre un petit peu dans cet aspect de criminalité?
Oui, je pense que dans l'avis, là, comme je vous dis, je ne l'ai pas écrit. Là, moi, je ne suis pas criminologue ni membre de la SPVM, mais dans l'avis que le SPVM a écrit, c'est des choses qui sont effectivement mentionnées. Oui.
D'accord. Alors, là, vous me l'avez dit en début d'entrevue, que vous êtes vous-même maman, vous avez des adolescents, c'est ça que j'ai compris?
Ah, j'en ai de tous les âges.
Ok,
des super. Enfants secondaires et j'ai aussi des enfants primaires.
D'accord. Ouais. Alors, c'était ma prochaine question, c'est comment ça se passe cette implantation de cette interdiction de totale du cellulaire, presque, en tout cas quasiment totale hein, du cellulaire, ouais. En tout cas du début des cours à la fin des cours. C'est quoi les échos que vous avez du terrain? Puis vous, en tant que parent, oui. C'est quoi la rétroaction que vous avez de vos propres enfants là-dessus?
C'est intéressant comme question. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes au départ. Comme je vous dis, il y a eu plusieurs rumeurs et mythes qui me sont parvenus là, par mes enfants. Donc, ça a été de recadrer tout ça. Là, ce que j'entends beaucoup comme témoignage, c'est qu'il y a une période de transition. Il faut être conscient qu'on est dans une période de transition, autant pour les élèves que pour les parents, que pour les intervenants, les enseignants et les directions. Pour les c'est sûr qu'il y a une insécurité avec chacune, peu importe la transition dans laquelle on doit passer à travers, là, il y a toujours une période d'incertitude. Puis là, je pense que c'est ce qu'on vit en ce moment. Tu sais, il y a eu plusieurs questionnements, mais qu'est-ce que je vais faire pour payer mon autobus? Qu'est-ce que je vais faire pour rejoindre mes amis? Maman, comment je vais faire pour t'appeler si j'ai besoin d'un lift ou si je suis pas exactement à l'endroit que tu pensais que j'étais? Donc, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Puis, je pense qu'il faut un peu aussi... faut anticiper un peu. C'est-à-dire que le téléphone sert d'outil de communication et de loisir. Donc, si on prend le côté communication, le téléphone sert d'outil de communication. Donc, il faut prévoir avec l'enfant, ben on va communiquer à quel moment. Puis, si tu n'arrives pas si tu peux pas me rejoindre à 12h30, ben texte-moi à 15h20 puis je vais prendre le message. Donc c'est de rassurer un peu pour les moyens de communication puis les moments de communication parce qu'on peut plus communiquer là toute la journée avec son enfant. C'est de voir avec l'école en cas de véritable urgence, c'est quoi les moyens qui sont mis en place? Est-ce qu'on appelle le secrétariat? Est-ce qu'on appelle le tuteur? Est-ce qu'on appelle quand il y a une véritable urgence? Puis sinon, c'est de rassurer l'enfant sur le fait que, en fait, ils ont beaucoup grandi là avec une réponse immédiate. c'est le fait que ben tu peux me texter à 15h20, puis ça se peut je te réponde à 15h30, ou moi je te texte à 12h30 pour planifier quelque chose, là, un retour à l'école, je te texte à 12h30 parce que c'est à ce moment-là que moi je suis libre dans ma journée. Mais si tu me réponds à 15h22, ça va, je vais le prendre ton message, puis on va réussir. C'est un peu un apprentissage de la réponse un peu décalée, là, qu'elle est pas, la réponse n'est pas immédiatement dans la minute. T'sais. Fait que ça, c'est une crainte. Une autre crainte que j'ai entendue beaucoup, c'est qu'il y a, des... puis ça avait été relevé aussi à la commission. Là. Il y a des élèves qui ont des difficultés de socialisation. Et pour eux, le téléphone est un refuge. Alors là, pour ces élèves-là, c'est sûr que c'est une adaptation. En fait, le souhait, c'est que l'équipe école puisse accompagner ces jeunes-là et mettre en place des activités organisées qui va faire en sorte que ces jeunes-là ne sont pas isolés là dans leur tout seul dans un coin de l'école. Donc, elle est là un peu là. On est en période de transition là, fait qu'il faut voir pour ces élèves plus vulnérables là qui ont des difficultés de socialisation et que là on place devant une situation, mais là t'as plus ton téléphone comme béquille ou pour te rassurer ou pour t'occuper pendant tes heures libres, mais c'est un peu de les accompagner. Fait que là, je sais pas comment ça va se négocier avec ces personnes plus vulnérables-là. C'est peut-être encore le point d'interrogation que j'ai actuellement.
Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre temps, Madame Gagné. Je rappelle, professeure spécialiste de l'effet des écrans sur le développement et l'apprentissage à la Faculté des sciences de l'éducation et de l'Université Laval. Excusez-moi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ben, merci beaucoup de votre intérêt.
Au
Bonne
plaisir.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Au 97.3, on vous donne le juste.
C'est la fin de cette première émission, l'heure juste, première émission de la saison. Je rappelle qu'on était avec Jean Bourbeau, professeur au département de médecine de l'Université McGill, et avec Andréane Gagné, qui est, elle, spécialiste, professeur spécialiste de l'effet des écrans sur le développement et l'apprentissage à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Je remercie le docteur Bourbeau et la professeure Gagné d'avoir répondu à nos questions, et je vous remercie, vous, chers auditeurs, d'avoir pris ce temps pour nous écouter. C'était Simon Dominé, directeur de l'information à la radio CAGA, qui était avec vous pour cette émission d'Affaires publiques. Je vous rappelle de ne pas hésiter à nous contacter si vous avez des nouvelles à nous partager. Et en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous sur CAGA FM.